inzambi rasamirana.
Le journal avec Valérie Mucho.
Nous sommes le jeudi 15 juin 2023. C'est l'heure du journal sur la radio Inzamba Agathe Kakaawe. Tout d'abord, les titres. Une taxe sur la fortune, c'est la nouveauté qu'apporte le nouveau budget de l'État et l'Olcom s'en félicite. Mais cette même organisation demande que le budget en question soit revu, car pour l'Olcom, les près de 4000 milliards de francs burundais ne sont pas réalistes et sont loin d'être porteurs de stimulation pour l'économie du pays. À Rutana, le directeur du centre d'enseignement des métiers de Gitaba est accusé d'avoir détourné le matériel didactique de cette école. Les parents des élèves, tout comme le personnel de cet établissement, demandent qu'il soit traduit en justice. Et puis, certains médicaments sont refusés par les pharmacies à des fonctionnaires de l'État affiliés à la mutuelle de la fonction publique. Non contents de cet état de fait, les fonctionnaires accusent la mutuelle de ne pas respecter le contrat qui les lie. Voilà pour le sommaire. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Démarrons ce journal par ces nouvelles brèves. Christophe Ndouayo, un membre du parti d'opposition CNL et ancien député au sein de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, a été enlevé aujourd'hui matin par des hommes en tenue policière et civile. Ses ravisseurs avaient encerclé son domicile depuis tôt le matin. Selon des sources au sein du parti CNL, Christophe Ndouayo a été enlevé par des policiers en complicité avec un certain Eliphaz, un employé de la mairie de Bujumbura. Jusqu'à maintenant, ni le motif de son arrestation, ni le lieu de sa détention ne sont connus par sa famille. Le parti CNL dénonce un nouvel acte d'intolérance politique. Et puis le docteur Christophe Sahawo a comparu aujourd'hui en audience publique devant le tribunal de grande instance de Muha à Bujumbura. L'ancien directeur de Kira Hospital était accompagné de son avocat. Clamant son innocence, le docteur Christophe Sahawo a démontré les irrégularités qui ont caractérisé son dossier depuis son arrestation. Le tribunal a décidé de mettre l'affaire en délibéré en près de 15 mois de détention. C'est la deuxième fois que le médecin comparait. La première fois, c'était le 28 septembre dernier. Détournement du matériel didactique au centre d'enseignement des métiers de Gitaba en province Rutana, le directeur est accusé d'être l'auteur des faits. Ce matériel était un don de l'ONG World Vision et le personnel de cet établissement et les parents des élèves demandent que ce directeur soit traduit en justice. Josephine Jones-Muzimana nous en donne des détails.
Ça fait 3 semaines qu'il a été révélé le vol du matériel didactique en don que l'ONG World Vision avait donné à ce centre d'apprentissage des métiers. Après la mise en place d'une commission d'enquête interne, il a été révélé que c'est le directeur de ce centre des métiers, Clavin Itunga, qui a volé ce matériel pour le vendre alors qu'il avait dit dans une réunion avec son personnel que le donateur, qui est World Vision, avait récupéré le matériel. Bien que le rapport de la commission montre noir sur blanc que Clavin Itunga a détourné ce matériel, il n'a pas été poursuivi parce que soutenu par le directeur provincial de l'enseignement à Rutana. Le personnel, tout comme les parents des enfants qui fréquentent ce centre, demande à ce que ce matériel retourne dans le patrimoine de l'école parce que l'endroit où il a été vendu est bien connu.
Nous, nous demandons à l'autorité administrative responsable de l'éducation de prendre ce dossier en main avant qu'il ne soit tard. Nous implorons le ministre en charge de l'éducation ainsi que le directeur provincial de l'enseignement de s'impliquer beaucoup plus davantage. Il faut qu'il se lève pour que le matériel volé soit retrouvé et retourné à l'école. Si rien n'est fait, nous sommes inquiets que même le matériel qui reste peut être volé d'un moment à l'autre. Il faut faire un effort spécial pour que ces enfants du pays continuent à étudier, sinon la situation ira du mal en pire.
Vous saurez que c'est pour la deuxième fois que le matériel didactique de cette école est volé, ce qui est beaucoup plus étonnant. Il dit que ce matériel a été récupéré par l'ONG World Vision, mais il n'y a aucun document d'accusé de réception. Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakaawe a cherché Clavin Itunga, le présumé auteur du vol, tout comme le directeur provincial de l'enseignement à Rutana, pour qu'il puisse apporter plus de lumière sur ce dossier, mais sans succès.
Josephine Jones Munzimana, merci. Une courte pause et on se retrouve pour la suite de cette édition.
Inzamba.
Je vous le disais dans les titres, le projet du budget de l'État pour l'exercice 2023-2024 ne va pas stimuler la croissance économique. C'est le constat de Gabriel Rossieri, le président de l'OLUCOM. Dans un point de presse ce matin, il a indiqué que ce budget de près de 4 000 milliards de francs burundais est irréaliste. Gabriel Rossieri demande que ce projet soit revu et reconduit à l'Assemblée nationale. Mais malgré ses lacunes, Gabriel Rossieri apprécie tout de même l'instauration d'une taxe sur la fortune dans ce projet. On l'écoute.
Souvenez-vous, le chef de l'État s'est donné une mission de faire au Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Pour que cette vision du chef de l'État soit mise en application, il doit y avoir en premier lieu des stratégies programmes qui seront épaulées par des budgets votés annuellement pour mettre en application ces programmes. Le budget, comme vous le savez, c'est un miroir. Le budget de l'État, c'est l'expression en chiffres des discours politiques de l'autorité politique. C'est pour cette raison que, pour l'OLUCOM, cette volonté du chef de l'État est loi de quitter le budget moyen vers le budget programme. Pour l'OLUCOM, c'est extrêmement important que ce budget soit vraiment retourné à l'Assemblée nationale pour l'étudier, ou tout au moins, si cela n'est pas possible, le Sénat puisse refaire en compétition avec l'Assemblée nationale pour que certaines choses puissent changer. Mais aussi, il y a une autre possibilité. En s'appuyant à l'article 182.3 et 4, le président de la République, s'il voit qu'il y a un « ça ne va pas » dans le budget voté par le Parlement, il peut décréter l'utilisation d'un deuxième du budget précédent, du budget antérieur, pour que le budget soit étudié minutieusement. Donc la loi a tout prévu. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que je viens d'évoquer le budget destiné au projet de développement, le budget à l'investissement. Ici, le gouvernement a prévu un budget global d'à peu près 4 000 milliards, c'est-à-dire une hausse de plus de 46% du budget global, au moment où les recettes vont augmenter plus de 65%. Et le déficit va augmenter plus de 769%. C'est le budget d'investissement par rapport au budget de fonctionnement. Le budget d'investissement va augmenter 33%. Au moment où le budget de consommation va augmenter près de 70%. Donc, c'est-à-dire 68,9%. Vous comprenez que ce budget n'est pas un budget de développement. Ce n'est pas un budget vraiment qui va stimuler la croissance économique. Il y a quand même de bonnes choses dans ce budget. Depuis plus de 20 on a demandé qu'il y ait une taxe sur les fortunes. Le gouvernement vient d'installer une taxe sur les fortunes.
C'était Gabriel Rossieri, le président de l'OLUCOM. Et puis ce conflit entre la mutuelle de la fonction publique et ses affiliés, certains dénoncent la violation du contrat par cette société d'État chargée d'assurer la couverture médicale et des soins de santé pour les fonctionnaires des services publics. Ceux-ci sont rejetés par les pharmacies partenaires de la mutuelle qui refusent de leur servir certains médicaments. Le point avec Pierre Garungu.
Ce sont les factures non couvertes par la mutuelle de la fonction publique qui suscitent des grognes au sein des abonnés de cette unique société de l'État. Celle-ci ne couvre plus les soins de santé des fonctionnaires à hauteur de 80%, comme cela est prévu par le contrat avec les clients. Celui-ci témoigne.
La mutuelle de la fonction publique ne nous aide pas du tout. Si on vérifie le contrat, on nous dit qu'elle couvre 80% et l'abonné paie 20%. Mais à y voir de près, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Par exemple, pour mon cas, je suis allée me faire soigner. Ma facture était de 15 000 à 100%, mais avec la mutuelle, on m'a facturé 13 000 francs. Donc vous comprenez que c'est moi qui ai plutôt payé les 80% et la mutuelle n'en a assuré que 20%.
Cet affilié de la mutuelle de la fonction publique dénonce aussi le mauvais partenariat qui existe entre cette société et les pharmacies où ils doivent s'approvisionner en médicaments. Les abonnés ne sont pas du tout servis dans le strict respect des prescriptions du médecin.
Beaucoup de médicaments sont rayés sur la liste. Ce mois-ci, vous êtes servi, mais le mois prochain, le même médicament ne sera plus couvert par la mutuelle. Nous demandons que cette société refasse une bonne organisation et respecte les pourcentages de 80 et 20%. Et en même temps, assurer les factures des médicaments pour leurs abonnés.
À ces grognes des abonnés de la mutuelle de la fonction publique, nous avons cherché la réponse du directeur général de cette société de l'État, mais il ne répondait pas à son téléphone.
Et pour terminer, pénurie de certaines denrées alimentaires dans la commune de Kabarore, c'est dans la province de Kayanza. Il s'agit notamment de la pomme de terre, la farine de manioc et de maïs qui sont devenues rares. La raison est que les commerçants qui les vendaient n'acceptent plus les anciens billets de 5 et 10 000 francs burundais. Conséquence, ces commerçants ne sont plus approvisionnés de l'extérieur pour avoir ces produits et les consommateurs se lamentent. Francine Kanyangé, reportage.
Les habitants de la commune Kabarore et surtout ceux de la zone Lugari affirment qu'ils éprouvent des difficultés à trouver ces denrées alimentaires de première nécessité. Les prix de ces produits ont même sensiblement augmenté depuis que les commerçants ont commencé à refuser les anciens billets de 5 et 10 000 francs. Ils trouvent qu'ils sont victimes d'une situation qu'ils n'ont pas créée.
Nous sommes dans une désolation. Par exemple, le prix d'un kilo de farine de manioc qui était à 1800 francs burundais avoisine aujourd'hui 2500. Pour la farine de maïs, c'est la même chose. Presque tous les produits ont augmenté de prix parce que nous ne pouvons pas être approvisionnés à partir de Kayanza. Nous sommes très fâchés, la vie est devenue compliquée. Nous pensons que nous sommes victimes des choses que nous ne savons pas, nous le petit peuple de Kabarore.
Ces habitants appellent les autorités communales et provinciales à résoudre ce problème de denrées alimentaires, sinon ils craignent une famine généralisée.
Nous demandons aux autorités compétentes, l'administrateur, le gouverneur de province, nous voulons leur dire que nous avons besoin de quelque chose à mettre sous la dent. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas mangé à la maison. Nous ne comprenons pas la situation dans laquelle nous sommes. Il faudrait que l'administrateur ou le gouverneur de province nous donne des explications. Généralement d'ailleurs, notre gouverneur c'est quelqu'un qui est à l'écoute des problèmes de la population. Nous voulons sortir de cette situation misérable.
Nous n'avons pas pu avoir au téléphone l'administrateur de la commune Kabarore, Dakmas Sagouye, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Il était injoignable sur son portable.
Merci Francine Kanyangé. Et c'est par vous que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.